L'œcuménisme en chemin. Une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne. Aujourd'hui, pour l'œcuménisme en chemin, nous sommes très heureux d'accueillir Nadia Savin-Benesto. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Vous représentez l'Église protestante unie. Alors, ce sera l'occasion de nous parler de votre communauté, de votre Église, parce que vous avez un petit événement, c'est le départ de votre pasteur qui va partir à la retraite. Avant de parler du départ de Leïla Amrhat, parlons un peu de l'Église protestante unie en Pays Basque. Est-ce que vous pouvez nous dire qui constitue cette Église ?
Cette église représente une communauté de 280 familles à peu près, sur plusieurs sites, sur le temple de Bayonne, le temple de Biarritz. Nous utilisons également la chapelle de Guermiette à Baïgorry, et puis le temple de Sortes-Osgore, et nous avons ce qu'on appelle une église de maison du côté de Saint-Pé-sur-Nivelle, c'est-à-dire que nous célébrons dans les familles et non pas dans un lieu de culte. Voilà, cette communauté est constituée de quelques personnes originaires du Pays Basque et principalement de gens qui viennent du monde entier, de France, d'Alsace, de Madagascar et de différents autres pays plutôt à connotation effectivement protestante comme par exemple le Cameroun.
Alors c'est vrai que pour nous catholiques, chez les protestants, c'est un peu dur de s'y retrouver entre les luthériens, les évangélistes, les baptistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et nous dire, vous, comment vous situez l'Église protestante unie par rapport à ces diverses appellations ?
Alors, depuis 2014, nous sommes l'Église protestante unie, c'est-à-dire la communion luthérienne et réformée. En fait, l'Église luthérienne et l'Église réformée se sont unies à ce moment-là, considérant que finalement leur divergence théologique était très faible, et donc elles ont constitué une seule union d'Église. Ainsi, nous avons aujourd'hui cette appellation-là, même si selon les communautés, la tendance luthérienne et la tendance réformée est plus marquée. Particulièrement chez nous, en fait, là, dans le sud-ouest, c'est plutôt une communauté réformée que luthérienne. Les luthériens sont plutôt dans la zone de l'Alsace-Moselle, enfin, on va dire l'Est, et la région parisienne, et dans les pays d'Europe du Nord, souvent.
Alors, vous avez évoqué les différents lieux où vous célébrez, les lieux de culte, comme le temple à Bayonne, qui est bien connu, juste à côté des Galeries Lafayette, rue Albert Ier. Alors, comment s'organise le culte chez vous ?
Alors, chez nous, le culte a lieu donc tous les dimanches. Il a une liturgie qui est assez proche de la liturgie catholique. Peut-être que ce qui est la plus grosse différence, c'est que nous ne prenons pas l'Eucharistie tous les dimanches, mais uniquement des jours de fête très particulières. Pour nous, c'est un sacrement, effectivement, comme pour les catholiques, un sacrement fondamental. Et pour lui attribuer de l'importance, nous n'en abusons pas et nous le réservons à quelques fêtes particulières, bien sûr la Pentecôte, Pâques, Noël, en gros, un peu moins d'une fois par mois. Voilà. Je pense que finalement on est très ressemblants dans notre culte. On a un moment de louange, de demande de pardon, d'invocation de l'esprit avant les lectures, le temps de la parole, et puis s'ensuit effectivement après la prédication, c'est-à-dire l'homélie pour vous, un temps de prière, le Notre Père, et puis la prière d'intercession. Et on finit bien sûr par une bénédiction et un envoi de la communauté pour le reste de sa semaine.
Comment organiser votre communauté ? Vous avez donc votre pasteur qui est sur le départ, donc la pasteur Leïla Amrhat prend sa retraite. Elle est arrivée, je crois, 1er juillet 2020.
Oui, nous avions dû faire un recrutement en période de Covid. avez été assez original. En général, quand un pasteur comme ça candidate sur un poste, il rencontre le conseil presbytéral qui lui-même a été élu par l'assemblée des paroissiens. Et ce conseil a pour mission de gérer donc la paroisse avec le pasteur. Et c'est donc le conseil presbytéral qui recrute. Donc Leïla avait été recrutée un petit peu in extremis en mai 2020 pour prendre son poste au 1er juillet. On s'attendait à repartir une année sans pasteur. Et puis, elle arrivait de Suisse, elle avait passé son entretien. Par contre, elle n'avait pas pu célébrer de culte, puisque souvent, le processus de recrutement, c'est un entretien avec le conseil presbytéral, qui ensuite valide la candidature, et puis le pasteur revient pour un second entretien et célébrer un culte, afin que toute la communauté puisse voir si la théologie de ce pasteur convient à la communauté. Voilà, donc on n'avait pas fait ça pour Leïla. On espère que par contre pour le prochain pasteur, dont les recrutements ont commencé, on pourra avoir ce temps en deux étapes. Quoi qu'il en soit, nous allons passer plusieurs mois sans pasteur, et ça c'est prévu par la constitution de notre Église. C'est considéré même comme un temps de réflexion pour la communauté, de ne pas avoir finalement un pasteur qui s'impose avec ses façons de faire, mais ça questionne la communauté sur qu'est-ce qu'elle attend du prochain pasteur, quel est son projet d'église, et tenter de recruter un pasteur qui correspondra à ce projet d'église et non pas l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas le pasteur qui vient avec son projet d'église, mais c'est l'église qui se fixe des objectifs et qui va donc recruter le profil qu'il convient pour la réalisation de cet objectif.
Si je comprends bien, il n'y a aucune intervention des instances nationales du protestantisme dans la désignation du pasteur local.
Non, absolument pas. Ce qu'il y a, c'est par contre, et c'est fondamental, hein, et c'est pour ça qu'on est une union d'églises, contrairement à certaines églises évangéliques, nous fonctionnons par une union d'églises, c'est-à-dire que la formation de nos pasteurs est bien assurée par un service national. La commission nationale des ministères valide hein, ces pasteurs-là, elle surveille un petit peu leur théologie, leur façon de faire, leur façon d'être en église. Donc on a cette liste de pasteurs potentiels, mais il y a un respect, puisqu'on est en union d'église, il y a un respect des autres communautés. Il ne s'agit pas d'aller débaucher le pasteur absolument génial de la communauté d'à côté. Quand un pasteur est recruté, pendant 6 ans, on n'est pas censé lui faire du charme, sauf problématique dans la paroisse où il est, si lui il se sent pas bien ou que la paroisse qu'il a recrutée trouve que ça ne convient pas. Mais sinon, avant 6 ans de ministère, on ne va pas débaucher un pasteur ailleurs.
Leïla Amrat, elle est arrivée en 2020, donc elle a fait que 3 ans, mais c'est dû à son départ à la retraite.
Oui, absolument. Elle nous avait averti au moment de son recrutement qu'elle venait, elle arrivait donc de Suisse. Elle nous avait averti que elle venait pour finir sa carrière, et donc on savait très bien que c'était pour 3 ans, 3 ans et demi. Au final, ça aura été. Elle arrête en cours d'année, on va dire d'année liturgique, et en fin d'année civile, en raison de son âge de départ à la retraite. En général, nos mouvements pastoraux pour une synchronisation nationale ont lieu au 1er juillet, ce qui permet aussi de libérer les presbytères, puisqu'on fournit le presbytère au pasteur. Donc entre un pasteur qui part et un qui arrive, on a 1 an pour faire des travaux dans le presbytère pour le remettre un petit peu à neuf, au moins 1 an. Et si on n'a pas trouvé de pasteur intéressé par notre poste, eh ben on peut se retrouver 2 ans sans pasteur. Il y a des paroisses qui restent 2 ans, 3 ans sans pasteur. Alors soit parce qu'elles ont, on va dire, elles ont un projet d'église très particulier et n'arrivent pas à trouver le profil, soit parce qu'elles sont dans des zones peu attractives. Comme vous savez, nos pasteurs peuvent être mariés, et donc quand on déplace un pasteur, on déplace toute une famille. Donc on déplace son conjoint, ses enfants s'ils sont encore en âge d'habiter avec lui. Et on a déjà essayé, là, dans notre processus de recrutement, d'approcher un pasteur qui était intéressé par le poste, mais finalement, pour des raisons familiales, effectivement, il a refusé le poste parce que il ne pouvait pas venir avec conjoint et enfant aussi loin de l'endroit géographique où il était. Voilà, donc c'est une problématique supplémentaire par rapport aux catholiques dans la gestion des ministres.
Le culte d'au revoir à votre pasteur, donc Leïla Amrath, aura lieu ce dimanche 3 décembre. Où est-ce que ça va se dérouler ?
Alors, ça se déroulera à la salle du Braou, 55 rue du Braou à Biarritz. Effectivement, nous attendons donc beaucoup de monde et donc nous ne sommes pas en mesure d'accueillir tous ces paroissiens-là, nos amis catholiques, des pasteurs du consistoire, dans nos temples. C'est pour ça qu'on loue une salle. Ça aura lieu à 15h, de façon à permettre aux autres ministres de culte, ceux qui sont catholiques, ceux qui sont protestants, de célébrer le dimanche matin et ensuite de venir l'après-midi à ce culte.
Voilà, notons aussi qu'il y aura un marché de Noël ce jour-là en même temps et un repas avant le culte à 15h.
Voilà, c'est toujours l'occasion pour les protestants de faire des couronnes de l'Avent qui sont un des éléments importants pour nous, autant que le sont les crèches pour les catholiques.
Nadia Savin, une dernière question pour conclure. Vous êtes une des chevilles ouvrières du rassemblement Scout qui accueille chaque année la lumière de Bethléem. Est-ce que vous savez quand aura lieu la journée de l'accueil de la lumière de Bethléem?
Ah oui, il aura lieu le 21 janvier. Cette année, il aura lieu à Bayonne et il sera interreligieux puisque nous serons accueillis par Déborah Loupin-Soares à la synagogue, parce que la lumière de Bethléem est aussi une lumière de la paix, et compte tenu du contexte international actuel, nous avons voulu en faire un rassemblement judéo-chrétien, et la célébration œcuménique aura lieu donc l'église Sainte-Croix à 16h30.
Le 21 janvier.
21 janvier.
Accueil de la lumière de Bethléem à Bayonne. Merci beaucoup, Nadia Savin-Ménesto. Je rappelle que vous êtes la représentante donc de l'Église protestante unie de la côte basque de Bayonne. Merci à vous.
Merci.
L'œcuménisme en chemin. Vous venez de suivre une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne.